Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Ce matin, une main nous est tendue, alors saisissons-la, elle va nous guider sur le chemin. Une voix s'adresse à nous sur ce chemin, alors écoutons-la. C'est un étrange chemin, hein, où pour regarder loin devant, il est nécessaire de tourner la tête vers l'arrière. C'est un chemin à la fois plein de sinuosité et à la fois très cohérent. Suivre ce chemin, c'est parcourir des lieux. Ici, une école religieuse, le cours Bossuet. Là, la petite Roquette, une prison pour enfants. Ici, la chambre des dames. Plus loin, la prison Saint-Lazare, un établissement pénitentiaire pour femmes. Ici, une usine. Là-bas, la maison de George Sand à Nohant. Parcourir ce chemin, c'est aussi faire des rencontres. Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Lucie Beau, Michel Foucault et tant d'hommes et de femmes, apaches, ouvrières, criminels, victimes. Suivre ce chemin, c'est écouter des voix, des paroles. Elles nous touchent, elles nous parlent. Ce chemin est celui des femmes et sans doute bien plus que des femmes. Ce chemin est notre chemin, un parcours revigorant où le déplacement se fait à l'intérieur de nous. Notre guide est Michel Perrault, dont la voix nous ouvre la voie. Durant toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'est intéressé à l'or noir, l'histoire du pétrole, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast ou nous rejoindre sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Aujourd'hui, il n'est pas question de pétrole, d'or noir, mais de parole. Car la parole est d'or avec vous, Michel Perrault. Bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit, merci.
Vous êtes historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris Diderot et merci à vous beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous arrivez avec un ouvrage, Le chemin des dames, chez Robert Laffont, c'est dans
le
la collection...
Des femmes.
Je pense à la chambre des dames. Chez Robert Laffont, c'est la collection Bouquin, prestigieuse collection, la collection Bouquin quand on regarde les auteurs. Ça veut dire quoi, être dans la collection Bouquin ?
Jamais je ne l'aurais fait si on ne me l'avait demandé. Et je voudrais remercier Jean-Luc Barré, qui est le directeur depuis 10 ans de cette collection. Ça fait un effet bizarre. D'une part, oui, on est très content d'être reconnu. Et jamais je n'aurais imaginé, dans mon lointain parcours du début du chemin, que je pourrais entrer dans une prestigieuse collection comme ça. Parce qu'au fond, je ne croyais pas vraiment que je valais quelque chose. Et puis, le deuxième aspect, c'est, au fond, un livre comme ça, c'est un peu la sortie aussi. La sortie des artistes. On est sur la scène, mais on sait bien que on va la quitter bientôt. Donc, c'est mêlé. Ce sont des sentiments mêlés. Mais, je dois ajouter que j'ai eu du plaisir à le faire. Et j'ai eu du plaisir à le faire pourquoi ? Parce que, au fond, j'ai essayé de remettre en perspective un choix de texte, hein, il faut bien dire cela. Et à chaque fois, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Et quelle personne j'ai rencontré à ce propos ? Et c'était surtout cela, le chemin. Le long du chemin, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et aussi bien les miens, qui marquent le point de départ de cette histoire, que ceux, comme vous avez évoqué Michel Foucault, on pourrait parler de Robert Badinter, on pourrait parler de Jean Maitron, qui a été très important pour moi, on pourrait parler de Mona Ozouf, on pourrait parler d'Assia Djebbar, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un chemin de rencontre, et ce chemin de rencontre dit aussi quelque chose sur la société de notre temps, la mienne, la vôtre aussi, un petit peu plus tard.
Oui, mais c'est vrai que ce chemin des femmes, Michel Perrault, est un ouvrage impressionnant parce que nous avons ici des œuvres, faut le dire, qu'on a lues, qu'on redécouvre et qui nous enchantent. C'est comme tous ces textes qui nous ont marqués à un moment, qui sont constitutifs de ce que nous sommes et de la manière de faire de l'histoire, de réfléchir à notre société. Et l'occasion de cette parution, c'est redécouvrir ces textes. Et c'est un véritable bonheur. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, le chemin va nous conduire en Amérique latine pour notre partenaire, hein, le magazine L'Histoire, qui consacre donc son dossier à l'Amérique latine, le temps des brasiers, avec vous, Valérie Hanin, directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, bonjour.
Bonjour Xavier.
Et avec vous, Anaïs Fléchet, maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Si tu vas à Rio », le titre est très beau, « La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle », c'est chez Armand Collin, et une histoire culturelle du Brésil qui va sortir.
Oui, dans quelques semaines aux éditions de l'IHEL.
D'accord. Eh bien, écoutez, avec vous deux, Valérie Hanin et Anaïs Fléchet, nous allons parler de cette Amérique latine qui nous fascine dans les années... fin des années 50, 1959-70, le cœur des années 60, une Amérique latine qui nous parle vraiment, nous verrons ça tout à l'heure. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, le chemin nous conduit à un bricolage sonore, inédit et magique réalisé par Milena Eli qui réalise cette émission, le cours de l'histoire. Un bricolage sonore où nous allons croiser Georges Sand à voix nue. L'émission de France Culture avec Fanny Ardant, La Grande Traversée, Les Enfants du Siècle, le tout sur une musique de Max Richter. Et pour commencer, écoutez, c'est la voix d'André Mauroy.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'imagine que beaucoup d'entre vous, en apprenant le sujet de ce cours, ont pensé, mais pourquoi Georges Sand ?
Car le malheur de la femme entraîne celui de l'homme. Comme celui de l'esclave entraîne celui du maître.
J'ai passé mon adolescence à faire des rêves sublimes d'amour platonique.
Madame Georges Sand, pouvez-vous en quelques mots me situer le Berry ?
Ah, c'est la patrie du calme et du sang-froid. N'y allez chercher ni grands effets ni grandes passions. Vous n'y trouverez de drame ni dans les choses ni dans les êtres.
Pourriez-vous annoncer Madame Sand à Monsieur de Musset ?
Elle n'avait pas de doctrine, disent-ils. Elle dépendait, pour ses idées, de l'homme qu'elle aimait. Eh bien, ce n'est pas vrai.
Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton.
Georges Sand et vous êtes de ces personnes qui écrivent comme elles respirent. Elle écrivait toutes les nuits, quoi qu'il advienne. Oui, oui, quoi qu'il advienne.
Nous élevons les jeunes filles comme des saintes, puis nous les livrons comme des pouliches.
Vous en êtes à combien de volumes ? Elle ? Elle en a écrit 109.
Pour moi, vous êtes encore moins qu'une femme, avec juste assez de syntaxe pour aligner des obscénités. N'ayez crainte, ça se vendra. Au poids, comme le fumier.
Georges n'a pas 30 ans, mais c'en est fait. Elle a choisi son destin de femme libre.
Fini le mariage, l'humble condition, les rêveries quasi virginales. Voici les amours avides, voici la vie parisienne et littéraire, voici Georges Sand.
Voici Georges Sand, voici Michel Perrault. Georges Sand, évidemment, parce que vous êtes intéressé à cette figure incroyable, Georges Sand, dans le sens où nous avons ici une femme qui a laissé une trace, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, les oubliées de l'histoire, qui sont souvent des muettes. Et c'est vrai que l'immense majorité des sources dont dispose l'historien, que ce soit dans les archives, dans la littérature, est une parole masculine. Avec Georges Sand, nous avons une parole féminine. Je ne pense pas que ce soit ça qui vous a uniquement intéressé à Georges Sand. Dans Le chemin des femmes, qui est le titre de l'ouvrage que vous publiez, Michel Perrault, chez Robert Laffont, c'est vrai, nous arrivons à Georges Sand, parce que c'est le bout du chemin. Pourquoi Georges Sand au bout du chemin ? Pas uniquement parce qu'elle est une femme.
Je l'aimais pas beaucoup quand j'étais enfant, ou adolescente plutôt. Je la trouvais ennuyeuse, je ne la lisais pas surtout. Et je l'ai découverte parce que j'ai exploré le Berry avec mon compagnon, et j'ai découvert sa maison. Et la maison de Nohant est une maison magnifique, une maison d'artiste, magnifique, rêveuse, campagnarde, vraiment très très séduisante. Et quand je l'ai vue, cette maison, il y a bien longtemps, je me suis dit, mais c'est pas ce que je croyais, Georges Sand, c'est autre chose. D'autant plus que quand je visitais la maison, j'ai eu la chance de voir sa petite fille, qui avait 97 ans, elle allait mourir l'année suivante. Je ne le savais pas, bien sûr. Et le sentiment que j'ai eu d'être là avec une femme qui avait connu Georges Sand le siècle précédent, c'était pour une historienne quelque chose. Je suis très sensible à ça, sensible au passage du temps. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et après, je l'ai lu. Et j'ai lu surtout Histoire de ma vie, qui est une autobiographie qui a été publiée dans la Pléiade par Georges Lubin. Georges Lubin qui a été le grand artisan de la connaissance de George Sand, puisque il a publié sa correspondance, ce qui représente 26 volumes, hein, serrés.
C'est énorme. Ouais.
Environ 20 000 lettres sur les 50 000 qu'elle a probablement écrites. Quand vous disiez que là, on avait une parole de femme, bien sûr, on a une parole, un écrit de femme, une présence de femme, avec une vie extraordinaire, une vie de rupture, une vie de choix, une vie d'amour, mais toujours avec cette domination qu'elle avait sur elle-même. Je n'ai jamais eu de maître, disait-elle, même en amour.
C'est très beau, cette émotion que ressent l'historien sur le passage du temps. Le fait d'entendre une voix à travers le temps, cette émotion-là, c'est vrai que par la rigueur scientifique, il faut s'en détacher. L'émotion et l'histoire sont deux choses différentes. Mais malgré tout, on ne peut pas s'en défaire. Et d'entendre cette parole à travers des lettres notamment. Et la correspondance est une source très particulière parce qu'elle touche à l'intime, touche l'historien et en cela lui fait changer peut-être son regard aussi sur la personne, le moment et puis même la production de ses archives.
La correspondance est une source merveilleuse, à la fois par son caractère futile parfois, c'est très important la futilité, mais aussi son caractère intime, vous l'avez dit, grave. Et puis cette correspondance, elle est très variée, hein, puisque George Sand a connu toutes les sommités de son temps. On trouve aussi bien des lettres, pas tellement de Chopin d'ailleurs, il y en a très peu, mais de Flaubert. Hein. D'ailleurs la correspondance Sand-Flaubert a été publiée, correspondance croisée à part. Donc il y a véritablement là une mine d'informations, on plonge dans l'histoire et c'est une correspondance qui va de l'adolescence de George Sand, 1812, elle est née en 1804, à sa mort en 1876. Ce qui veut dire qu'on parcourt avec elle le siècle et on parcourt, vous avez évoqué les émotions, les émotions et les pensées du siècle. Car il faut dire que George Sand est une penseuse aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a pensé la politique, qui a pensé la démocratie, qui a été républicaine très tôt et dont l'idée était la République et si possible le socialisme. Pour elle, le socialisme, ça voulait dire l'égalité. Elle disait « l'égalité est ma passion hein, et je lui sacrifierai tout ».
C'est vraiment cela qui nous intéresse en fait, Michel Perrault, toujours, c'est de toucher cette émotion, ce qui fait que l'histoire nous plaît. À tous, ce qui fait que, même sans être historien, l'histoire plaît. Et puis, ce qui est dit, ces idées qui nous permettent de comprendre une société, celle du passé, en écho à celle d'aujourd'hui. Et dans la démarche de regarder les correspondances, je vous propose d'écouter ce que disait Marguerite Yourcenar. Nous étions en 1968, au moment où elle publie l'œuvre au noir. Et là aussi, elle réfléchit à comment écrire une vie.
J'ai souvent dit, et j'ai encore plus souvent pensé, que la question se posait exactement de la même manière que si j'avais à écrire la vie de mon père, par exemple, la vie d'un ami mort depuis 40 ans. Qu'est-ce que je ferais? Je relirais ses lettres, s'il y avait des lettres. Je m'informerais auprès des personnes qui l'ont connu. Je tâcherais de rassembler mes propres souvenirs. Je me trouverais en présence de documentation tout à fait contradictoire, tout à fait fragmentaire. Je devrais reconnaître qu'il y a des périodes de sa vie dont je ne sais absolument rien, et rien ne me prouve que ce ne sont pas les plus importantes.
Marguerite Yourcenar, c'est vrai que la démarche est basique. Quand on veut connaître quelqu'un, on va vers ce qu'il a laissé comme trace, avec ben, cette tristesse d'être obligé d'abandonner certains pans, et ce pan-là que l'on abandonne fait mal, parce qu'on aimerait bien tout savoir, on ne peut pas tout savoir. La place de l'historien est d'écouter les voix du passé. Vous, en tant qu'historienne, Michel Perrault, vous avez lu ces voix, on les a souvent par écrit, indirectement. Cette recherche de voix qui ne se disent pas, cette recherche du manque, c'est aussi très difficile, cette recherche de l'intime, du non-dit, c'est aussi au cœur de votre œuvre.
Oui, c'est difficile et ça permet aussi peut-être de libérer l'imaginaire. À partir du moment où on a des pointillés dans une vie, et on en a beaucoup, là, l'imagination peut fonctionner, mais évidemment avec la prudence de l'historien aussi. Souvent, j'ai été un petit peu au carrefour de cela. L'historien n'est pas un romancier, et j'avais parfois envie d'aller plus loin, d'imaginer. Je me disais non, ça c'est. Je l'ai éprouvé notamment à propos de Lucie Beau. Lucie Beau est une ouvrière sur laquelle on a beaucoup moins de choses que sur George Sand, car il faut dire qu'avec George Sand, nous sommes gâtés tout de même. Mais Lucie Beau, très peu de choses. Et avec tout de même des événements dans sa vie, par exemple une tentative de suicide après une grève manquée, qui pose problème dans la vie d'une ouvrière engagée collectivement. Comment arriver à comprendre cela, dire cela? Est-ce que je pouvais... Elle a rencontré un syndicaliste, il semble qu'elle l'ait peut-être aimé. Gérard Bordillat, qui a tiré un film de ce livre, Mélancolie ouvrière, lui, il imagine un amour entre Lucie Beau et Oda, ce militant italien. Moi, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que, franchement, je n'en savais rien. Mais c'est plausible, c'est possible.
Michel Perrot, vous êtes historienne, effectivement, vous n'êtes pas romancière. Donc, en tant qu'historienne, on ne bouge pas les trous en inventant ce que font beaucoup d'auteurs qui se présentent comme biographes. Vous savez, ce mélange biographie-roman. Là, vous, vous êtes dans la rigueur de l'historienne. Non, mais oui, vous faites une tête de modestie. Mais si, il y a la rigueur de l'historienne, mais malgré tout. Ce n'est pas du roman, c'est la qualité d'écriture. La beauté de ces voix du passé, de George Sand évidemment, mais pas seulement de George Sand. La beauté de cette littérature oubliée, littérature ouvrière, ces textes laissés par ceux qui n'étaient pas destinés à écrire ou à laisser une parole. Ces textes-là aussi sont très beaux. Et vous, dans vos textes, mais c'est basique ce que je vais dire, mais vous écrivez sublimement bien, Michel Perrot. C'est un plaisir de vous lire. C'est aussi en écho à la beauté de ces textes du passé qu'on oublie et qu'on redécouvre sans cesse.
Oui, ces textes sont fascinants. Je pense à toute l'œuvre d'Arlette Farge, par exemple, qui a cherché les textes oubliés dans un livre récent, « Vies oubliées », elle en parle. Et ce qui est important, vous parlez de l'écriture de l'histoire. C'est quelque chose dont nous pourrions parler longtemps, mais on n'a pas le temps, bien sûr. C'est difficile, l'écriture de l'histoire, parce que, à la fois, on a envie d'écrire, de se laisser aller, de se dominer aussi, mais on a les sources, on a ce qu'on doit transmettre. Et là, ce n'est pas si simple, l'écriture de l'histoire. D'ailleurs, ça la rend fragile, cette écriture de l'histoire. C'est un peu triste, d'ailleurs. Il faut des gens comme Georges Duby, qu'on vient de publier en Pléiade, qui, lui, est un écrivain magnifique, mais qui, en même temps, est un médiéviste, et qui a peut-être la chance de savoir moins de choses que nous, les gens d'histoire contemporaine, qui avons tellement de choses à dire, parce que nous avons tellement de sources. Le médiéviste, par exemple, quand Duby parle des femmes du Moyen-Âge, il dit « je n'ai connu que des ombres fugitives ». Et alors, du coup, il peut imaginer, il peut raconter, il peut, etc. Ce que peut-être l'historien, l'historienne contemporaine peut moins faire.
S'il peut moins faire, l'historien ou l'historienne du monde contemporain, parfois, en revanche, il est confronté à des abîmes de sources, notamment, et c'est votre cas, Michel Perrot, quand vous vous intéressez à un monde, le monde ouvrier, le monde des ouvriers, des ouvrières, ce monde-là ne laisse pas de traces de ce qu'il dit lui-même. Il y a énormément de traces de ce qu'on dit de lui, mais très peu de ce qu'il dit lui-même. On va écouter quelqu'un que vous avez déjà évoqué dans cette émission, et je sais combien il est important, c'est Jean Maitron. Nous étions en 1976 dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture.
Je prendrai deux femmes, Flora Tristan et Pauline Renan. Vous me direz, pourquoi toujours des femmes, alors? Eh bien, c'est parce qu'on les oublie quelquefois. Et pour une fois, j'ai choisi des femmes pour illustrer mon propos, sans pour autant qu'on oublie les hommes, en l'occurrence. Ces deux femmes mettent en avant tout un programme d'éducation qui a ce mérite de marquer le rôle assigné à l'éducation et à l'instruction par les ouvriers, les intellectuels de cette époque, et combien cette instruction doit faire pour l'émancipation du peuple, nous aurons à le voir.
Nous aurons à le voir, Jean Maitron, qui évoque l'émancipation du peuple par l'éducation. Nous étions en 1976. Michel Perrot, présentez-nous Jean Maitron, ou présentez-nous votre Jean Maitron, celui que vous avez connu.
Sa voix d'abord, vous avez reconnu ce petit accent bourguignon. Hein, il était bourguignon. Et puis en même temps, il parle des femmes. Et c'était très rare à l'époque. Et vous imaginez la sympathie que j'ai eue pour lui dans toutes ces rencontres. C'était un ancien instituteur qui avait eu un parcours politique absolument incroyable, communiste, trotskiste, anarchiste finalement, et écrivant sur l'anarchie, libéré. Un homme libéré, mais qui a toujours été fidèle à l'idée du monde ouvrier, du peuple. Et il a voulu lui consacrer une œuvre qui maintenant fait peut-être 50 volumes, hein, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qu'il commence au début du 19e siècle et qui continue de nos jours avec Claude Pelletier. Et son idée, c'était que il fallait que ces vies obscures, qui parfois se manifestent par un cri, par un geste dans une grève, soit consigné quelque part pour qu'on puisse les retrouver. Il a mis en perse toute une équipe à travers toute la France, des centaines de personnes ont fouillé les archives départementales, etc., etc. Et le résultat est cette œuvre extraordinaire à laquelle on se réfère beaucoup aujourd'hui.
Le Maitron, c'est vrai qu'on dit le Maitron, et le qui Maitron continue encore à vivre aujourd'hui, notamment même sur les réseaux sociaux, on les retrouve, et c'est formidable de chercher justement ces voix, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, Michel Perrot, qui publiait chez Robert Laffont Le chemin des femmes, cette recherche des voix, parce que, je vais vous le dire, en préparant cette émission, il y a une prise de conscience absolue qu'il n'est pas possible de faire l'œuvre de Michel Perrot en si peu de temps. Il faut prendre un angle. Et cet angle-là, c'est vrai que celui de la voix que vous avez cherché de tous les côtés, celui de la voix que vous nous transmettez, nous intéresse, nous touche particulièrement dans votre parcours, Michel Perrot. C'est vrai que, et d'ailleurs, c'est même le plan du livre. C'est vous qui l'avez refait, vous avez choisi les textes. Nous avons trois moments majeurs. Il y a ce moment des ouvriers, ce moment des marges, et puis ce moment des femmes. Dans la lecture globale, et c'est sans doute en cela que la mise en publication sous un seul ouvrage d'une œuvre complète, permet de montrer qu'en fait, il y a une cohérence absolue. Il y a trois parties parce qu'il faut classer les choses. Mais en fait, tout cela, c'est le même esprit, c'est la même recherche, ce sont les mêmes questionnements.
Est-ce que c'est peut-être une fausse cohérence aussi, hein? On organise un livre, on lui donne de la cohérence. Moi, je suis attirée par la clarté, même j'ai un peu peur du noir. Hein. Et peut-être c'est une fausse cohérence. Mais enfin, mettons, prenons-la pour ce qu'elle est. Malgré tout, c'est vrai que j'ai cherché à aller vers l'obscur. Hein. C'est ça qui m'attirait beaucoup. C'était justement, les ouvriers, c'était les marges quand même. Hein. On n'en parlait pas beaucoup. Et donc, les retrouver, les faire apparaître, et c'était aussi l'esprit de Labrousse dont on n'a pas parlé mais qui a été mon grand maître à la Sorbonne, c'était cela. Et puis arrive 68, 68 bouleverse l'historiographie, bouleverse l'histoire, on est attiré par les marges, on est attiré par les périphéries. Foucault nous dit l'histoire c'est pas le centre, ce sont les périphéries. Et là on a envie de travailler sur les prisons, les délinquants, d'autant plus qu'il y avait des révoltes dans les prisons extrêmement importantes. Et puis c'est en même temps, les femmes, hein, car le mouvement des femmes c'est 70, le mouvement de libération des femmes, et les femmes me disent, et nous, enfin vous, 68 c'est très bien, mais vous parlez pas de nous. Et au fond, moi, mon écho à moi, c'était ce mouvement des femmes dans l'histoire. Je participe au mouvement des femmes, je milite, etc. Mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes? Rien. Et du coup, on allait décider, parce que c'est devenu très très collectif, de faire quelque chose là-dessus, des cours, des recherches, et de donner vie à cette histoire des femmes.
C'est vrai que cette cohérence que nous pouvons voir, qu'on relève, c'est vrai que le monde ouvrier est un monde en marge, le monde des prisons est un monde en marge, les femmes a longtemps été un groupe complètement laissé en marge. C'est la cohérence de votre œuvre, Michel Perrot. Je dis votre œuvre, c'est un petit peu grandiloquent, mais c'est le cas.
On travaille, disons.
votre travail. Oui. Parce que justement, ce travail nécessite d'être contextualisé. Si vous choisissez le monde ouvrier comme début de vos recherches, c'est parce que nous sommes à un moment où le monde ouvrier intéresse. Vous l'avez bien dit pour les prisons, si vous vous orientez vers ce monde-là, mais qui vous fait passer facilement des ouvriers à la prison en étudiant la révolte, c'est parce que il y a un intérêt pour le monde ouvrier. Pour les femmes, le monde des femmes est un monde beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il traverse l'ensemble ? Quand vous étudiez les ouvriers, il y a les ouvrières.
Il y a les ouvrières, mais j'allais dire marginal, parce que dans les grèves, à l'époque que j'étudie, si les ouvrières forment à peu près 30% de la main-d'œuvre, elles ne font que 10% des grévistes. Cette différence, c'est une espèce de différence sexuelle, finalement, dans la vie publique, en quelque sorte. Rien que ça, ça pose problème. C'est évidemment un problème.
Mais vous-même, en tant qu'historienne, le fait d'étudier les marges vous permet de voir l'ensemble. Parce que quand on dit que vous étudiez le monde ouvrier, il est un monde en marge. Le monde des prisons, il est un monde en marge. Le monde des femmes, ce serait en marge. Mais en vérité, de regarder ces marges explique le tout.
Bien sûr. Et c'est là où on retrouve l'idée de Foucault, par exemple. Les périphéries, c'est le centre. Hein. Et on ne peut pas faire l'histoire sans intégrer ces périphéries dont on s'aperçoit qu'elles sont tout à fait centrales. Juste, je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit que c'était cohérent par rapport à l'air du temps. Ça, je crois que c'est important. D'ailleurs, j'ai un texte au début qui est un petit peu un essai d'égo-histoire que m'avait demandé Pierre Nora, j'ai appelé l'air du temps. Parce que j'ai toujours été très sensible à l'air du temps, trop peut-être. Hein. Peut-être quand on est sensible à l'air du temps, on est un peu une éponge aussi. Hein. On est un peu une passoire. Les courants du temps passent par vous. Mais après tout, pourquoi ne pas les assumer et les traduire et se considérer au fond, modestement, historienne, comme une traductrice du temps entre le passé et le présent.
Alors, au-delà de la beauté de cette formule, il y a le concret, Michel Perrault, de cette notion de passeur, parce que l'historien et l'historienne sont ceux qui font des recherches, ce sont également ceux qui véhiculent, transmettent, sont vecteurs de savoir. Il y a ces deux aspects, d'ailleurs souvent l'historien ou l'historienne est enseignant, mais pas seulement. Parfois, il passe à la radio, c'est votre cas, dans les lundis de l'histoire, et vous racontez quelque chose dans justement le texte que vous mettez au tout début de cette ouvrage, Les chemins des femmes. Ce texte, c'est La peur du noir. Je trouve ça très beau, La peur du noir. Vous expliquez que ce passage ici sur France Culture dans les lundis de l'histoire vous a permis un jour d'être ému parce que l'on a reconnu votre voix.
Oui, c'est un des bénéfices, j'imagine que vous l'éprouvez, Xavier Mauduit. Les gens reconnaissent votre voix, vous, on vous voit à la télévision, donc on connaît votre visage. Mais moi, non, pas du tout. Et la voix, au bout d'un certain temps, devient en effet familière à des auditeurs. On a des auditeurs, bien entendu. Et bon, un de mes plus grands plaisirs, c'était quand telle ou telle conférence en province, toujours quelqu'un me disait « Ah, mais je vous ai entendu l'autre jour. » Voilà. Et un jour, à la gare Montparnasse, j'allais prendre un billet, et la personne à laquelle je demande mon billet, presque sans me regarder, me dit « Ah, mais vous êtes Michel Perrault. Je vous ai entendu l'autre jour. » Et ça, être une voix, n'être qu'une voix même, hein, ça c'est un plaisir. C'est un plaisir narcissique, hein, je veux bien, tout à fait narcissique. Mais après tout, on a les plaisirs qu'on peut.
C'est un plaisir à la radio, la voix à la radio qui touche un autre de vos centres d'intérêt, Michel Perrault, c'est celui de l'intime. La télé est un très beau média, mais ça reste un meuble, c'est vendu au milieu de l'électroménager. La radio se déplace avec la personne, c'est-à-dire que pendant que nous parlons, là, ce matin, pendant que vous parlez, Michel Perrault, peut-être que des gens sont dans leur automobile, peut-être dans le métropolitain, certains prennent peut-être leur douche, d'autres dans la cuisine, d'autres dans la chambre. Il y a cet intime aussi qui vous intéresse énormément avec
beaucoup,
la radio.
Beaucoup. Et j'ai toujours eu l'idée, en effet, qu'on parle à des centaines de gens qui sont là dans leur vie, avec lesquels on communique. Et je trouve que la radio, bon, je pense que vous serez d'accord, c'est un moyen formidable.
Moyen formidable de vous entendre, Michel Perrault, et de donner envie de vous lire également Le chemin des femmes chez Robert Laffont, où l'on traverse ces textes choisis, mais qui donnent cet ouvrage incroyable où l'on passe du monde ouvrier et l'on arrive à George Sand, ça fait partie de ces livres que j'aime beaucoup, que l'on peut lire en continu et qui ont une cohérence, mais que l'on peut prendre et ouvrir.
On peut picorer.
Et on peut picorer. Absolument. Et ça, c'est ce qu'on aime aussi en histoire. On aime beaucoup picorer. Merci beaucoup, Michel Perrot. Vous savez, vous avez étudié le monde ouvrier, mais je pense que la chanson qui va suivre va vous plaire. Elle est d'un groupe chilien, Quilapa Yun, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será
vencido. Le groupe Quilapa Yun, un groupe chilien qui chante El Pueblo Unido Jamás Será Vencido dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Et nous continuons notre chemin. Et le chemin nous conduit ce matin dans les années 1960 en Amérique latine avec vous, Valérie Hanin, directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, notre partenaire. Alors, quel est ce dossier que vous nous proposez? Amérique latine, le temps des brasiers, Cuba, Chili, Argentine, Nicaragua, Bolivie, Pérou, Brésil.
Oui, tout un programme, et c'est une très bonne idée d'avoir passé cette chanson qui, Anaïs Fléchet en parlera beaucoup mieux que moi sans doute, mais qui est un classique de la chanson politique internationale et de la chanson militante, et qui est en effet une excellente introduction à ce que nous voulons dire. C'est qu'on a oublié à quel point l'Amérique latine a nourri nos mythologies politiques, et notamment dans ces années 60-70, qui sont un paroxysme, et les Quilapa Yun, évidemment, pour tous les gens qui ont passé un certain âge, ils font un écho magnifique. Tout commence de ce point de vue, on peut dire, le 8 janvier 1959, avec la prise de pouvoir par Castro à Cuba, qui est tout simplement un coup de tonnerre géopolitique. Olivier Compagnon, qui est professeur à la Sorbonne, mais aussi à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui nous a aidés avec Anaïs Fléchet à construire ce dossier sur l'Amérique latine, le temps des brasiers, rappelle à quel point cette prise de pouvoir est un événement mondial. Il nous cite à New York, le magazine Life qui évoque, sic, la marche triomphale du libérateur Castro au travers d'une île extatique. Et il conclut, lorsqu'il est entré dans la Havane, le monde entier parlait de lui. On ne comprendrait pas autrement la passion de la jeunesse de Régis Debray, par exemple, hein, dont il nous dit aussi que Révolution dans la Révolution, en 67, a été un best-seller planétaire.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo.
Gilberto Gil, Akele Abracho, je ne sais pas si je le prononce bien, Anaïs Fléchet, vous le direz mieux que moi. C'est pas mal quand même, j'ai essayé. Non, Gilberto Gil, personnage important, vous Anaïs Fléchet, vous avez, vous étudiez d'ailleurs à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ce monde incroyable qu'est l'Amérique latine, mais du point de vue de l'histoire culturelle, il y a un boom culturel, c'est le titre de votre article dans le magazine L'Histoire. Nous pouvons rester à ce qu'on entend là, Gilberte Gil, une forme de légèreté, mais avec ce titre, nous sommes en 1969, c'est l'année où Gilberte Gil est exilé du Brésil. Il y a un contraste saisissant entre l'univers politique de ces pays d'Amérique latine et la richesse culturelle. Mais ce contraste, en fait, va de pair.
Oui. Si on reprend cette chanson, donc la prononciation exacte, ce serait Aquele Abraço.
Ah oui, vous faites bien.
Donc, en fait, c'est une ode à Rio de Janeiro. Et c'est une chanson qui, effectivement, nous semble très joyeuse parce que le rythme l'est et qu'elle s'inscrit dans cette grande tradition de la musique populaire brésilienne, mais dont les paroles reflètent un état tout à fait dramatique, puisque Gilberto Gil dit au revoir à cette ville dans laquelle il a habité, qui est la ville de Rio de Janeiro, dont il est forcé de partir suite à son emprisonnement puis à son bannissement par les militaires qui sont au pouvoir au Brésil depuis 1964, mais qui entament une politique répressive très féroce à l'encontre des milieux artistiques à partir de 1968, qui était vraiment un tournant et qui marque l'entrée dans ce qu'on appelle pour le Brésil et puis ensuite pour l'ensemble du cône sud, les années de plomb.
D'ailleurs, c'est un contraste saisissant entre ce qui se passe à partir de 1959 à Cuba, à la Révolution, et on va dire une bouffée d'espoir, de liberté pour les écrivains, les chanteurs, les cinéastes, et puis la réalité sur le reste de ce continent de dictatures qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu cette production artistique gigantesque, ce boom culturel dont vous parlez, Anaïs Fléchet, et puis la réalité politique, on est saisi et on comprend bien combien Cuba a pu être une bouffée d'oxygène, un espoir pour tous ces artistes.
En fait, il y a plusieurs temps dans cette histoire. Il y a véritablement ce qu'on a essayé de montrer dans ce dossier, et peut-être plus spécifiquement ce que j'ai essayé de développer dans cet article. Il y a un moment latino-américain dans les milieux culturels, dans les années 60 et 70, qui se joue non seulement en Amérique latine, mais aussi à l'international. C'est le moment où l'Amérique latine s'impose sur les scènes culturelles internationales. Et ça, on le voit bien à la fois pour l'architecture, c'est l'inauguration de Brasilia en 1960, qui est un véritable coup de tonnerre. C'est l'affirmation du nouveau roman latino-américain, avec des grandes figures comme Gabriel Garcia Marquez, qui a obtenu plus tard le prix Nobel et qui est mondialement connu avec 100 ans de solitude. Donc il y a une révélation dans plusieurs domaines, que ce soit la musique, le roman, le cinéma aussi, qui est porté par toute la vague, notamment du cinéma novo autour de Glauber Rocha. Et tout ça se joue dans la première moitié des années 1960, dans un contexte où l'attention en Europe, en Amérique du Nord, se porte sur l'Amérique latine, en lien avec des éléments politiques, en lien avec la révolution cubaine qui attire à elle de nombreux artistes, de nombreux intellectuels. On citait Simone de Beauvoir, je crois, tout à l'heure, qui s'est rendue à Cuba. On connaît l'importance de son voyage avec Sartre à Cuba, mais dans le cas français, on pourrait en citer bien d'autres, Agnès Varda, Maurice Nadeau, François Maspero. Donc il y a vraiment une attention qui se porte sur Cuba, qui incarne un espoir révolutionnaire, qu'il incarne pour les artistes latino-américains, mais aussi côté européen ou dans les milieux critiques en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Et donc, autour de cette expérience cubaine, il y a une forme de cristallisation qui s'opère, de mouvements culturels qui sont préexistants. En fait, il y a une longue histoire de la modernité culturelle en Amérique latine qui remonte au moins à la période de l'entre-deux-guerres, mais qui tout d'un coup se cristallise et trouve dans le sillage de l'expérience cubaine à la fois une unité continentale. Enfin, c'est un moment de latino-américanisation du roman, de latino-américanisation du cinéma, avec des circulations qui s'accélèrent entre les artistes latino-américains eux-mêmes, et puis une projection vers l'international, qui s'opère d'abord dans un cadre relativement démocratique et ensuite qui se voit confronté à l'instauration de tous ces régimes de sécurité nationale qui fleurissent sur au sud de l'Amérique notamment, mais ensuite un peu partout, et qui reconfigure complètement les scènes culturelles et qui contraignent surtout à l'exil de nombreux artistes et de nombreux intellectuels latino-américains.
Avec ce moment fort qui est l'année 1973, ce 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet, la prise de pouvoir, la mort d'Allende, et là encore les artistes sont touchés et on voit qu'il y a une rupture à partir de ce moment-là complète. Valérie Hanin, justement, dans cette solidarité des dictatures, c'est vrai qu'il y a l'idée du plan Condor et un article est consacré au plan Condor qui fait partie des fantasmes, les gens d'Urmède. On a construit des choses autour de ça, mais quand l'historien porte un regard, là ça devient beaucoup plus éclairant.
Oui, un très bel article de Maud Chirio et Mariana Joffili sur le plan Condor, en effet, parce que le séisme qu'est la prise de pouvoir par Castro à Cuba déclenche une onde de choc qui va ébranler tout le sous-continent. Et le cône sud de l'Amérique latine, les guérillas se constituent un peu partout. Il y a une belle carte dans le dossier, je crois, qui le rappelle, mais en face, la réaction s'organise. Et les dictatures, les classes possédantes, la hiérarchie catholique, les dictatures militaires, les juntes prennent le pouvoir avec un soutien actif des États-Unis. On est en pleine guerre froide. On est au moment où c'est la construction du mur de Berlin, c'est le moment où les États-Unis s'engagent au Vietnam. Ici, ça prend une autre forme. Et cette autre forme, elle est indirecte, ce qui fait que ça a beaucoup nourri les fantasmes. Vous le dites, le plan Condor, on pouvait croire, rappelle Mochirio, que c'était une rumeur. Mais ça n'était pas une rumeur et aujourd'hui, on a des archives. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce dossier, les archives de la terreur, comme on dit, les archives qui avaient été conservées par le général Stroessner au Paraguay. Aujourd'hui, il y a 300 mètres linéaires d'archives qui s'ouvrent. Et les archives du département d'État, il y a une citation, archives qui rapportent, c'est rapporté dans le dossier, un entretien, une rencontre entre Kissinger et l'amiral argentin Guzzetti. On est en 1976, au moment du coup d'État. Alors là, c'est pas au Chili, c'est en Argentine. Et Kissinger dit « On veut que vous réussissiez. On ne va pas vous embêter. Je ferai ce que je peux. » Et ce que je peux, c'est évidemment une aide massive qu'on peut constater aujourd'hui. Donc en effet, c'est toute cette tension qui fait que le sous-continent est un sommet de la guerre froide, de l'affrontement qui a des conséquences peut-être jusqu'à aujourd'hui.
Dites-moi, Anaïs Fléchet, est-il possible de faire une histoire culturelle de l'Amérique latine de ces années-là sans passer par la politique? J'ai l'impression que non. On est toujours prêt à essayer d'analyser ce mouvement là, lié à la politique. Valérie Hanin a cité Kissinger. On sent l'importance de cet homme-là. D'ailleurs, vous avez dans votre article, Anaïs Fléchet, ce nom Victor Jara, qui est un guitariste chilien qui, en 1973, devient une victime, et j'ai envie de dire même un martyr. C'est un guitariste qui se fait couper les doigts et qui émeut le monde entier. Et c'est vrai que Kissinger, d'ailleurs, à ce moment-là, est pointé du doigt.
Oui. Enfin, Victor Jara a été assassiné, il ne s'est pas simplement fait couper les doigts, donc c'est une icône martyr, effectivement, de ce coup d'État du 11 septembre 1973. C'est une histoire culturelle qui est une histoire politique, parce que c'est un moment où la culture est éminemment politique. On a des formes de résistance culturelle qui s'organisent face à ces dictatures militaires, qui s'organisent sur place et en exil. Il y a toute une thématique qui est liée à la censure, comment la contourner. Il y a des fronts qui de résistance, donc cette idée de dribbler avec la censure qu'on a beaucoup chez certains musiciens, alors que ce soit au Chili ou au Brésil notamment. Et donc c'est une histoire qui est politique bien sûr, mais c'est une histoire aussi qui s'ancre dans le social et dans des mutations économiques, puisque au fond il n'y a pas que l'aura de la révolution cubaine, il y a aussi tout le développement des industries culturelles en Amérique latine qui est très rapide à cette période. C'est le moment où par exemple des grands réseaux de télévision et des grands groupes de médias qu'on connaît aujourd'hui comme TV Globo ou Televisa au Mexique sont créés. TV Globo, c'est aujourd'hui plus de 35 chaînes, tout un réseau de titres de presse, de radio, de productions de films. Donc là, on a parmi les plus grands groupes médiatiques mondiaux actuelles qui sont nées au cours de cette période. Donc il y a vraiment des industries culturelles et une consolidation des cultures de masse qui sous-tendent aussi ce moment culturel latino-américain. Donc on peut l'aborder à partir du prisme politique, mais aussi à partir du prisme économique et social, puisque une donnée toute bête, mais c'est quand même la réduction du taux d'analphabètes, enfin du nombre d'analphabètes, qui permet aussi que ce nouveau roman latino-américain progresse et fleurisse dans les années 1960.
Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce dossier dans le magazine L'Histoire, Amérique latine, le temps des brasiers, c'est d'avoir ces différents aspects, que ce soit politique, culturel. Merci beaucoup Anaïs Fléchet, merci beaucoup Valérie Hanin. Vous savez, Anaïs Fléchet, deux Anaïs va mieux qu'une. Voici maintenant venir Anaïs Quien pour son journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, il est question de microbes et de guerre civile.
L'hiver arrive et avec lui ses cohortes d'épidémies, d'yeux qui piquent et de nez qui coulent, accompagnés du retour des débats sur les bénéfices de la vaccination. Sur sa chaîne YouTube « L'Histoire nous le dira », l'historien Laurent Turcot se montre passablement agacé par les alternatives hasardeuses, comme vous pouvez l'entendre.
Pourtant, en plein 21e siècle, avec des cas de rougeole qui réapparaissent un peu partout, et même des gens qui évoquent des techniques de vaccins alternatifs, des tenants de l'homéopathie qui affirment faire leur propre vaccin avec du jus de citron et de l'eau distillée, ou encore à ceux qui cite, mais cette maudite étude qui dit qu'il y a un lien entre autisme et vaccination. By the way, cette maudite étude-là de marde a été invalidée par les chercheurs et même ceux qui l'ont faite sont revenus en disant qu'elle ne comptait pour rien, pour de la marde, disons-le.
Pour illustrer les ravages des campagnes de méfiance, Laurent Turcot mobilise l'histoire et nous ramène au 19e siècle à Montréal. La variole, infection particulièrement répugnante et meurtrière, est enfin éradiquée grâce au vaccin inventé à la fin du 18e siècle. La maladie paraît si lointaine qu'on ne s'en méfie plus.
Le récit que je m'apprête à vous raconter tient carrément d'un scénario de film. Des cris, des morts, des attaquants, des défenseurs. L'Église, les Anglos, les Franco, les bons, les méchants, les tensions politiques et linguistiques. Ajoutons à tout cela un peu de religion et beaucoup de mauvaise foi et ça donne l'émeute anti-vaccin.
Émeute anti-vaccin de 1885. Vous l'aurez compris, la question du vaccin déchaîne les passions et fait exploser les tensions sociales qui couvaient jusque-là. Dès les années 1860, on remet en cause son utilité et l'on se focalise sur les effets secondaires disgracieux de la piqûre, de son inoculation. On répugne à souiller les enfants avec ces bactéries et les communautés religieuses qui craignent pour leur place au sein du système de soins et par extension pour leur rôle dans l'éducation des petits Canadiens se font tirer l'oreille. Certains médecins évoquent même une mode de la vaccination déjà obsolète. Les remèdes douteux pullulent à grand renfort de publicité dans la presse. Mais dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, on n'a pas eu le même succès qu'à Montréal dans la lutte contre la variole. Par un patient zéro, conducteur de train venu de Chicago où une épidémie fait rage, la maladie réapparaît. L'épidémie se propage d'abord dans l'hôpital qui l'a soigné. Le ministère de la Santé renvoie chez eux les patients qui ne semblent pas infectés. Grave erreur puisqu'elle se répand alors librement dans toute la ville. La majorité des malades étant francophones, les Canadiens anglophones se désintéressent de la question et accusent leur mode de vie arriéré et leur hygiène douteuse. Les rumeurs vont bon train, vous l'aurez compris. À l'épidémie s'ajoute l'exaspération du conflit entre communautés linguistiques orchestrée par une presse très en verve. Du côté de l'Église encore, on voit la résurgence de la variole comme une punition après les débordements festifs du carnaval. On s'infecte d'ailleurs copieusement dans les églises où les malades, au lieu d'être isolés, sont exposés et leurs bubons célébrés comme les marques de la présence divine. Un climat de guerre civile s'installe en quelques semaines dans les rues de Montréal.
Le 28 septembre 1885, des émeutiers mettent à feu le bureau de santé du Faubourg de l'Est, puis se dirigent vers l'hôtel de ville où des vitres sont brisées. La foule assiège le bureau de santé du Faubourg de l'Est et y met le feu. Ensuite, on va chahuter le Herald et on y brise les vitres. Les émeutiers vont menacer les maisons des médecins vaccinateurs, dont celle de l'ex-maire Ingston et des pharmacies. Des bagarres éclatent. Le chef de police de Montréal est lui-même blessé. Le maire Honoré Beaugrand, alité parce qu'il souffre d'asthme, court à son bureau et consigne 600 militaires. Il émet une déclaration dans laquelle le maire invite les citoyens à ne pas sortir le soir et à ne pas gêner l'action des policiers.
La nouvelle de l'épidémie et des violences qui lui sont liées circule en dehors du Canada et la ville de Montréal est bientôt frappée d'un blocus informel. Les produits qu'elle exporte pourraient transmettre l'infection. Les autorités publiques mobilisent la police pour isoler les malades et vacciner ceux qui ne le sont pas encore. L'évêque Fabre se fait vacciner en public deux fois pour montrer l'exemple. Entre-temps, la variole a fait près de 6000 victimes, dont une majorité de francophones et d'enfants de moins de 10 ans. L'épidémie de Montréal en 1885 est la dernière apparition de la variole non maîtrisée en ville. C'est en 1979, soit un siècle plus tard, que l'Organisation mondiale de la santé annonce finalement l'éradication de la maladie.
Merci beaucoup, merci Anaïs pour ce rappel. On retrouve toutes les informations et les liens utiles sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.fr. Dites-moi, Michel Perrault, vous dites que la publication de cet ouvrage chez Robert Laffont, Le chemin des femmes, avec une traversée de votre œuvre, est un peu une sortie. Alors déjà, si c'est une sortie comme au théâtre, la révérence est sublime. Mais enfin, pendant que nous parlions du magazine L'Histoire sur l'Amérique latine, vous m'avez chippé mon numéro. Pendant que Anaïs Quien parlait, vous étiez vraiment mais attentive et puis en faisant des signes de tête. Il n'y a jamais de sortie en fait quand on est historienne. On ne peut pas sortir de l'histoire.
Absolument, oui, oui, c'est une vie éternelle, l'histoire.
Mais c'est un plaisir aussi, hein. C'est un plaisir. Mais c'est vrai que voilà, on a chacun nos domaines d'études, vous avez les vôtres, mais l'histoire est aussi une démarche qui fait que tout est analysé avec un regard particulier, vous n'arrêtez jamais en fait.
Tout est histoire, absolument. Et en écoutant l'émission, je pensais au Brésil, bien sûr, que je connais un peu, enfin. Et je me souviens des premières années où j'y allais, où Lula commençait à apparaître. C'était extraordinaire. Et une des dernières où j'y étais, c'était la mort d'Ayrton Senna, le grand coureur automobile Formule 1, qui était un héros du Brésil. J'arrive avec des amis, on avait un colloque, et la première chose qu'on nous dit, Ayrton Senna est mort. Et tout le séjour, le colloque a failli être annulé d'ailleurs, parce que Ayrton Senna était mort. Et il y avait une espèce de fierté de ce coureur automobile qui marquait vraiment. C'est dire que nous vivons avec ces événements-là aussi.
Nous vivons avec ces événements-là et l'historienne que vous êtes, Michel Perrault, vit aussi dans son monde. Et ça, c'est toujours important, ce regard qu'on porte sans cesse sur le contemporain pour pouvoir analyser le passé. Donc, c'est chez Robert Laffont, Le chemin des femmes. Pour ceux qui veulent faire leur voyage en Amérique latine, c'est dans le magazine L'Histoire. Et pour le Journal de l'Histoire, c'est sur le site franceculture.fr. Mais pour le moment, c'est terminé. Jusqu'à lundi, Le cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André, Alice Rouet. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne, Michel Perrault, sur le site franceculture.fr. Vous pouvez les podcaster également. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook Le cours de l'Histoire. En tout cas, merci vivement d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous nous intéressons au travail contre la liberté, autrement dit au travail forcé et à l'esclavage. Dès lundi, nous parlerons de l'esclavage dans l'Antiquité, mais aussi de Spartacus.